Radio Kapi. Oh, Kapi.
Grand jour pour les sportifs congolais, grand jour pour ceux ayant vécu depuis 1974 et ceux qui ont vu et se rappellent de la RDC mondiale de football. En tout cas, c'est un jour mémorable pour tous les Congolais qui attendent voir ce vendredi 25 mars les Léopards s'ouvrir la porte pour la Coupe du Monde de football. Voilà sur ce tard de l'ouverture de cette édition de journal matinal sur Radio Okapi. Ensuite, vous suivez Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident des Nations Unies en charge du développement et des questions humanitaires, qui va nous parler depuis le Nord Kivu de la situation humanitaire dans les zones affectées par les conflits armés. Et juste avant de boucler ce journal, Alain Irung va nous permettre à travers son entretien de suivre ce que pense Marie-Dolores Mabouila. Elle est une femme extraordinaire, c'est pas moi qui le dis, c'est en tout cas son mérite comme policière d'origine congolaise qui travaille dans la police belge, au sein de laquelle elle a reçu l'European International Women's Leadership Award. Gardez la fréquence de Radio Okapi pour en savoir davantage, fidèles auditeurs, bonnes conditions d'écoute, bienvenue, bon réveil et bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle d'abord en rapport avec un sondage, moins de 30% des Congolais interrogés affirment désormais avoir une bonne opinion du président de la République. C'est ce que révèle le nouveau sondage publié hier jeudi par le Bureau d'études de recherche et des Consulting International Bercy avec le groupe d'études sur le Congo GEC et Ebouteli, son partenaire de recherche en RDC. Réalisé en décembre 2021, ce nouveau rapport intitulé L'an 3 de Tshisekedi, la fin de l'embellie, enregistre le plus bas taux de popularité du chef de l'État congolais depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Ce rapport révèle la défiance populaire vis-à-vis des représentants politiques, gouvernants et opposants compris. La baisse de la cote de popularité du président Tshisekedi n'a en effet pas profité à ses potentiels concurrents à la prochaine présidentielle attendue fin 2023. D'autres détails avec vous. Alain Gong.
Selon ce rapport, cette déception se propage également envers presque toutes les institutions du pays. Près d'un an après son investiture, le gouvernement de Jean-Michel Samalou Kondé a perdu de son côté 20% d'opinion favorable. Concernant l'Assemblée nationale, ce rapport indique que plus de 65% des sondés estiment que le contrôle du gouvernement par les députés nationaux n'est pas du tout efficace ou inexistant. Cette tendance remet en question la capacité de la Chambre basse à jouer pleinement son rôle de contrepoids du pouvoir exécutif, souligne Joshua Walker, directeur du programme du GEC. Même les confessions religieuses ont subi un léger refroidissement de leur soutien dans l'opinion publique. Les partenaires étrangers n'échappent pas non plus à cette tendance. Cette déception pourrait se justifier par la lenteur des réformes. Seulement 45% des Congolais interrogés en décembre 2021 estiment que l'état de siège instauré en Ituri et dans le Nord Kivu est une bonne chose comparé à 63% trois mois avant. Par ailleurs, la lutte contre la corruption, autre leitmotiv du gouvernement, peine à convaincre de son efficacité, même si Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service, est toujours plus populaire que n'importe quel membre de l'exécutif, indique le rapport.
Notez que selon toujours ce rapport, le nombre des potentiels abstentionnistes pour la présidentielle de 2023 reste aussi inquiétant. Seuls 43,6% des Congolais sondés disent avoir l'intention de voter. Parlons à présent de cette attente de tous les Congolais. C'est ce vendredi que les Léopards de la RDC seront aux prises avec les Lions de l'Atlas du Maroc au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est un match de barrage comptant pour la phase aller du Mondial Qatar 2022. L'événement est très attendu par le public congolais. La dernière participation de la RDC à la Coupe du Monde remonte en effet à 1974. Pour de nombreux Congolais, la victoire est certaine, mais beaucoup disent s'attendre aussi à un match difficile. Suivez le point de vue de ces quelques Kinois que Priscilla Badjoko a rencontré dans les rues de Kinshasa.
Mon pronostic pour le match est de 2-1. C'est que nous allons gagner. Nous souhaitons toutes les bonnes chances à nos Léopards face à l'équipe marocaine. Je crois que ça sera du show. Je vois que tous les joueurs sont vraiment motivés et nous leur encourageons. Nous leur disons que nous sommes ensemble avec eux.
Pour le match, moi je suis du côté de mon pays, donc je crois que nous allons gagner le Maroc, même 3-0.
Je pense que le match sera serré, d'autant plus que c'est un match de barrage pour la Coupe du Monde. C'est comme le dernier ticket pour accéder à la Coupe du Monde. Déjà, ça sera un match très serré. L'équipe marocaine viendra sûrement pour essayer de contrer les assauts congolais. Ça, c'est évident. Mais seulement, je pense que vu que les Congolais joueront devant leur public, je pense que ils ont quand même cette chance-là de remporter le match.
Nous parlons à présent sécurité et situation humanitaire en RDC. Au Nord Kivu, la situation humanitaire dans les zones affectées par les conflits armés reste préoccupante dans l'Est de la République. Déclaration faite ce jeudi à Goma par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur résident des Nations Unies en charge du développement et des questions humanitaires. C'est à l'issue des entretiens qu'il a eu avec le vice-gouverneur de la province en présence de la communauté humanitaire du Nord Kivu. Pour ce haut responsable de l'ONU en RDC, il est urgent d'augmenter l'espace humanitaire mais aussi diminuer les problèmes cruciaux d'accès humanitaire aux organisations philanthropiques en faveur des personnes affectées. Les propos de Bruno Lemarquis ont été recueillis par Gabriel Ouamenia.
Dans l'immédiat, c'est vraiment, surtout dans les provinces de l'Est, la réponse humanitaire qui doit travailler avec tous les partenaires pour réaugmenter l'espace humanitaire, diminuer les problèmes d'accès humanitaire pour que l'assistance humanitaire puisse aller aux plus démunis et aux personnes en souffrance. Ça, c'est vraiment le travail de toute la communauté humanitaire qui est très 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 mobilisée et il faut faire un plaidoyer peut-être encore plus fort au niveau national, au niveau international sur ce qui se passe dans l'Est de la RDC pour mobiliser les énergies, les acteurs, les ressources, etc. Sur le long terme, mon approche personnelle quand je travaille dans des pays, donc cette fois-ci en RDC, c'est toujours d'essayer d'aller au-delà de la réponse aux symptômes. L'humanitaire, c'est la réponse aux symptômes. Souvent, une grosse partie de l'assistance internationale, moi, c'est toujours d'aller sur les causes profondes et les causes des causes des causes que j'appelle les nœuds gordiens. Quels sont ces problèmes très très profonds qui font qu'un pays est instable, un pays a des déficits de développement, etc. Donc toujours aller sur les causes structurelles les plus profondes et essayer de régler ces problèmes de fond qui entraînent des conséquences.
Nord Kivu encore, ces dernières années, plusieurs cas d'enlèvement et des recrutements forcés d'enfants par les groupes armés sont rapportés dans la région de Beni. Malgré cela, la MONUSCO et ses partenaires ont pu sortir 567 enfants des groupes armés en 2021 qu'ils ont pu réinsérer dans leurs familles respectives. Radio Okapi est allé à la rencontre des deux enfants sortis récemment du groupe ADF. Ces enfants, dont la voix a été modifiée pour des raisons de sécurité, témoignent sur les conditions de vie durant leur captivité. Un reportage de Martial Papimukeba.
Kidnappé à Eringeti dans les territoires de Beni, cet enfant, âgé de 10 ans, a passé une année dans un campement ADF avant d'être arrêté à Biakato par les FRDC qui l'accusaient d'espionner leur position pour le compte de la rébellion ougandaise. D'après lui, les ADF détiennent encore plusieurs enfants dans leur campement.
Mon travail était de garder un chef. Là-bas, il y a des enfants, les leurs et ceux qu'ils avaient kidnappés. Ils disaient qu'après avoir appris à manier les armes, nous devrons combattre à leur côté lors de leurs différentes attaques.
Un autre enfant, cette fois une fille, 16 ans, a été kidnappée en novembre 2021 après une attaque rebelle à Kisima dans les territoires de Beni. Elle a passé 4 mois dans un campement ADF avant de s'échapper. Elle dit, comme d'autres filles mineures, avoir été victime de l'exploitation sexuelle.
Nous sommes arrivés là-bas et ils nous ont donné de mari. On cherchait la nourriture dans les champs d'autrui, on préparait et ils mangeaient. Et après, il fallait prier. J'ai beaucoup souffert. Il disait que si je tente de m'échapper, il me tue.
Ces enfants sont aujourd'hui pris en charge par l'UNICEF à travers une ONG locale. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le phénomène des discours de haine s'est aggravé en RDC dans un contexte d'une relative impunité, a déclaré jeudi 24 mars à Kinshasa Bintou Keïta. C'était dans le cadre de la présentation du rapport final de l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine tenu en septembre 2021. Cet atelier a été organisé conjointement par l'UNESCO, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, la MONUSCO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Honoré Misenga Kalala pour d'autres détails du message de la représentante spéciale en RDC.
La situation en RDC est préoccupante en ce qui concerne la dynamique liée au discours de haine, a fait observer Bintou Keïta, commentant le rapport dont la synthèse a été présentée par le représentant de l'UNESCO en RD Congo. Pour la chef de la MONUSCO, la situation est d'autant plus inquiétante que le phénomène se passe dans un contexte d'impunité générale.
La tolérance et l'absence de suivi de la loi pour les sanctions qui devraient être prises nous mettent dans un environnement très difficile.
Tous les médiums y contribuent et sont largement utilisés. Réseaux sociaux, médias en ligne et médias classiques, avec souvent des conséquences désastreuses, a-t-elle constaté.
Et là, on se rend compte que ça continue de croître et que cela a des conséquences très néfastes sur la sécurité, l'intégrité physique et voire assez souvent même la vie des Congolais.
Bintou Keïta a aussi apostrophé ces Congolais de la diaspora qui contribuent largement au phénomène, d'où son appel à la répression.
C'est le lieu pour moi d'inviter les autorités congolaises à poursuivre les efforts pour lutter contre l'impunité de tels actes en traduisant les auteurs devant les juridictions appropriées, qu'ils se trouvent ou non sur le territoire congolais.
La territoriale des originaires est également épinglée dans ce rapport comme l'une des principales causes du discours de haine en République démocratique du Congo.
Retour sur l'accident ayant emporté 3 députés de la province du Kwilu. Fin hier jeudi, des recherches des corps des disparus après l'accident sur le pont Maïndombé d'une jeep conduisant à Kinshasa 11 personnes dont 4 députés provinciaux. Il n'y a plus espoir de repêcher les 4 autres corps après la sortie de la jeep, déclare le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo. Une commission est mise en place pour l'identification des 5 corps placés à la morgue et l'organisation des obsèques. Le programme sera bientôt publié, a-t-il précisé. Les propos de Serge Makongo sont recueillis par Irène Beaumont.
Nous avons arrêté l'opération de recherche de corps. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous avions retrouvé au total 5 corps et nous allons nous organiser pour chercher à les enterrer. Pour les restes, nous ne pouvons plus rien faire puisque les 4 corps-là ne se voient pas. Nous ne savons pas pour le moment est-ce que ça se trouve au niveau déjà du fleuve. Ça sera difficile de les retrouver. Comme à l'impossible, nul n'est tenu, nous sommes obligés d'arrêter l'opération de recherche et de chercher à organiser le deuil. Je tiens à vous dire que déjà hier soir, nous avions mis en place une commission composée de députés, un député pour chaque territoire. Aujourd'hui déjà, nous allons déjà commencer le travail. Ça signifie, premièrement, nous devons aller à la morgue, identifier les corps et puis après, chercher à préparer quelque chose pour organiser les deuils. Dans les heures qui suivent, on vous donnera les programmes. On est en train de se préparer pour retourner Sadja Kinshasa, puisque la grille, par exemple, ça ne sert plus à rien puisque le véhicule a été tiré de l'eau.
Dans la même région, le 24 mars 2022, c'est la journée mondiale de la tuberculose. Le thème est « Investir pour sauver des vies ». En RDC, cette journée a été célébrée dans la province du Kwilu, précisément dans la ville de Kikwit. C'est le ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, qui a procédé au lancement de cette journée. Dans son discours à cette occasion, il a fait savoir que la RDC occupe la deuxième place concernant la tuberculose en Afrique. Il invite tous les secteurs vitaux du pays, et particulièrement ceux du Kwilu, à s'approprier de la lutte contre cette pathologie. On l'écoute dans cet extrait de son discours choisi par Irène Beaumont.
En République démocratique du Congo, le sous-thème national est « Investir dans la lutte contre la tuberculose », c'est « Investir dans la couverture santé universelle ». La RDC, notre pays, occupe le deuxième rang en Afrique. L'année dernière, en dépit de la survenue de la pandémie de la COVID-19, le pays, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, a notifié plus de 216 690 cas de tuberculose de toute forme, dont 120 724 hommes, 92 498 femmes, 26 550 enfants. Je lance un vibrant appel à tous les secteurs vitaux de notre pays et ceux de la province du Kwilu à s'approprier de la lutte contre la tuberculose. C'est donc sur le slogan d'une génération sans tuberculose prônée par le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je lance les activités de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose dans la province de Kwilu, dans la ville de Kikwit.
Parlons maintenant de cette présence pas très habituelle à Kinshasa de Sigmund Gbagbo. Que les femmes se lèvent pour devenir des agents modernes dans la production et dans la gestion de la société. C'est le message que Madame Simone Gbagbo, ex-première dame de la Côte d'Ivoire, a adressé à toutes les femmes congolaises. C'était à l'occasion de l'ouverture ce jeudi à Kinshasa de la 4e édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs qu'organise la Fondation Neema. On écoute Madame Gbagbo au micro de Jody Daniel Kachama.
Vous savez, si on veut faire de la politique de la bonne manière, on est obligé de s'intéresser aux activités qui sont menées. Et en tant que femme, c'est vrai que j'ai eu à m'intéresser aux activités que mènent les femmes. Et c'est tellement important qu'au plan économique, les femmes deviennent de véritables agents dans la production, dans la commercialisation, dans la transformation des produits que bon, j'ai eu effectivement m'intéresser un petit peu à tout ça.
Et à l'occasion du mois de la femme, le mois de mars, quel message vous adressez à toutes les femmes congolaises qui vous écoutent en ce moment?
Je leur souhaite d'abord une bonne fête de la femme. Il faut que les femmes comprennent qu'elles constituent la moitié de l'humanité et qu'elles ont un rôle extrêmement important à jouer dans une société. Il y a cela. Mais je leur demande également de se lever pour devenir des agents modernes, aussi bien dans la production que dans la gestion d'une société.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le parti du président déchu Roch Marc Christian Kabore s'est réuni pour demander la libération immédiate de l'ex-leader. Unanime, les membres du mouvement du peuple pour le progrès MPP estiment que l'assignation à résidence du président réprouvé s'apparente à une détention. Aujourd'hui, ils ne peuvent le voir que son médecin, ses aides de camp, ses enfants, son épouse, et ce pour une heure. Il n'a plus accès à son téléphone. Voilà la situation que vit le président Kabore aujourd'hui. Nous n'avons pas également reçu des réponses, ne serait-ce que par simple courtoisie, a déclaré Alassane Balasakande, chef du mouvement du peuple pour le progrès MPP. À Lagos, au Nigeria, de nombreuses pannes d'électricité ont paralysé des habitants de la ville et en particulier les commerçants contraints de fermer boutiques. Survenues après des semaines de pénurie de carburant, ces perturbations de réseau électrique ont transformé l'agacement des Nigérians en véritable colère à quelques jours du début du mois de Ramadan. Depuis mardi dernier, le pays a connu deux blackouts électriques complets. Si les Nigérians sont toutefois habitués au délestage fréquent, ces fois-ci, c'est 40% du pays qui a été privé d'alimentation pendant plusieurs heures.
L'invité.
Notre invité est la première inspectrice Marie-Dolores Mabouila. Cette policière d'origine congolaise qui travaille dans la police belge a reçu au début du mois de mars l'European International Women's Leadership Award, ce prix du Parlement européen qui récompense les femmes extraordinaires. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la police belge, elle encourage les femmes congolaises à intégrer la police, l'armée et les services d'intelligence. Madame Marie-Dolores Mabouila est interrogée par Alain Hérault.
Madame Marie-Dolores Mabouila, bonjour. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez eu à faire face en tant que femme policière et comment les avez-vous surmontés?
Bonjour Monsieur Alain Hérault. Écoutez, si vous me permettez, je souhaiterais quand même repréciser le cadre de ma trajectoire professionnelle pour nos auditeurs. J'ai effectué durant 10 ans des missions de police de base, telles que l'accueil, l'intervention policière, ainsi que la gestion administrative de quartier. Ensuite, j'étais chef d'équipe durant 2 ans dans un service de garde. J'ai travaillé pendant près de 7 ans dans la gestion d'événements de grande envergure, tels que le sommet européen, le sommet OTAN, le Tour de France également. Et ça fait effectivement 1 an que je suis rattachée à la direction administrative de la protection des VIP ainsi que des témoins dans le cadre de grands procès. Écoutez, ma principale difficulté a quand même été de gagner le respect de mes collègues masculins parce qu'ils ont vraiment besoin de savoir qu'en cas de problème, ils peuvent compter sur moi et je pense que j'ai pu leur démontrer ma détermination ainsi que mon professionnalisme à exécuter les fonctions de police de façon méticuleuse et avec énormément d'humanité car nous travaillons avec l'être humain et l'homme est un être hyper complexe. Mais il s'agit également d'un milieu qui est très macho, donc je pense qu'en tant que femme, il faut avoir énormément de caractère.
Vous avez 2 masters en criminologie et sciences politiques. Que pouvez-vous dire aux femmes congolaises qui, selon certains observateurs, hésitent à intégrer l'armée, la police et les services d'intelligence?
Écoutez, la sécurité est l'affaire de tous, hommes et femmes confondus. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut être solidaire pour ce qui concerne la sécurité. Nos sociétés ont fortement évolué et il y eut un temps où l'université n'était réservée qu'aux hommes. Et certains métiers avaient bien évidemment une connotation fortement genrée, tandis que la femme était reléguée à des tâches ménagères et familiales. Nous nous sommes battus en tant que femmes pour acquérir certains droits au fil du temps, donc soyons à la hauteur de ces nombreux combats. Je dirais qu'intégrer l'armée, la police ou des services d'intelligence n'a vraiment rien de compliqué, bien évidemment, car la formation de base est une formation commune à tous les policiers et vous avez également accès, mesdames, à toutes les fonctionnalités spécialisées de la police en tant que femme. Je parle bien entendu de la recherche locale, des sections judiciaires qui traitent de la délinquance, délinquance liée à la consommation de stupéfiants, de la petite et de la moyenne criminalité, de la gestion négociée de l'espace public, être monitrice dans la gestion de la violence avec ou sans arme à feu, pouvait également intégrer les forces d'intervention rapide, la gestion de la formation policière, la police scientifique. Voilà, il s'agit là d'une liste complètement exhaustive. Donc, mesdames, moi je vous encourage vivement à rejoindre les services de sécurité et d'honorer cette fonction qui a perdu ses lettres de noblesse au Congo.
Pour terminer, quel conseil pouvez-vous prodiguer aux autorités qui vous suivent en ce moment pour professionnaliser la police nationale congolaise, l'armée et les services d'intelligence congolais?
Le conseil que moi je pourrais prodiguer à nos autorités et qu'il faudrait consolider la réforme des polices de 2009 et que la police d'excellence se base sur une approche large de la sécurité et de la qualité de vie de la population. Et il est impératif que les autorités compétentes visent à une police qui soit intégrée dans la société au service du citoyen et qui cherche avec la communauté des solutions axées sur les problèmes locaux qui sont source d'insécurité. Je pense également que la fonction de police en RDC doit être orientée vers la communauté et reposer sur 5 piliers. Tout d'abord, l'orientation externe. La police ne se trouve pas face à la société, mais elle en fait partie intégrante. Et elle doit rapidement prendre conscience de ce qui se passe en matière de sécurité dans la société. Dans un second temps, elle doit également être orientée vers la résolution de problèmes, en faisant référence à l'identification et à l'analyse des causes potentielles de la criminalité et des conflits dans la communauté. Troisièmement, la justification, car la police doit impérativement rendre des comptes sur la manière dont elle répond aux questions et aux besoins de la communauté qu'elle sert. Et je pense que notre police l'oublie souvent. 4. Le partenariat. Il fait référence au sentiment que la police n'est pas le seul responsable de la sécurité. La sécurité devient une chaîne dans laquelle chacun des partenaires forme un maillon de l'approche globale et intégrée. Et enfin, l'implication capable. Cela implique, entre autres, que les policiers, aidés par les partenaires et la population, aient une réflexion critique sur leurs propres tâches, ainsi que sur la manière dont celles-ci sont effectuées.
Madame Marie-Dolores Mabouila, merci.
Fidèles auditeurs, voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Alaï Rung et l'ensemble de toute la rédaction de Radio Okapi. Billy Van Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Continuez à vous informer sur www.radiookapi.net.